Accent d'Europe, Catherine Roland.
We didn't vote for Brexit. Now the mob has spoken and our country's broken. We didn't vote for Brexit.
Bonjour à tous. Le 29 mars 2019, à minuit heure française, ce sera la date officielle du divorce définitif entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Des négociations avec Bruxelles, engagées il y a plusieurs mois déjà, mais qui ont bien du mal à avancer. Alors, un certain nombre de Britanniques ne veulent pas attendre la conclusion de ces discussions. Ils ont d'ores et déjà fait leur valise. Selon l'Office national de statistiques, plus de 100 000 ont quitté le pays entre mars 2016 et avril 2017. Un chiffre record depuis 2012. Et l'exode n'est pas terminé. C'est le reportage de Marie Billon.
Peter Sellar est pressé de goûter au verre de l'amitié. D'ici quelques mois, cet Écossais vivant à Édimbourg deviendra officiellement français. La cérémonie et le verre de vin pris au consulat à Londres sera son intronisation officielle. Marié à une Française et passant chaque année une partie de ses vacances dans l'Hexagone, il est content de pouvoir acquérir cette nationalité, mais il n'en aurait pas ressenti le besoin si le Brexit n'avait pas eu lieu.
Mais à cause du Brexit, ça a mis en danger un peu le statut que j'ai eu depuis toujours, ça veut dire que je suis européen. Et pour garder ce statut, c'est important pour moi que je reste toujours européen. Et ma vie est partagée entre la France et l'Écosse. À cause du Brexit, cette vie aurait été mise en danger. Il y a un risque que j'aurais eu des problèmes d'aller même voir la belle famille qui est en Normandie, à Paris et en Dordogne. Ça aurait été peut-être plus difficile. Là, d'ici à 6 mois, j'aurai le droit de garder tout ça, ce qui est pour moi le plus important dans ma vie, en fait, hein, c'est la famille.
Élodie, l'épouse de Peter, n'avait pas pensé à retourner vivre en France, mais le vote de juin 2016 a tout changé.
Ça me fait poser la question. Jusqu'à présent, je ne me l'étais pas posée. C'est quelque chose qui n'est plus exclu. Il faut voir comment ça va se développer, mais on a la chance d'avoir la porte ouverte en France. Donc oui, c'est une possibilité, le retour en France.
Sauf que Peter est avocat et si la famille s'installe en France, il devra passer l'examen du barreau. Mais Peter n'aura pas le choix. Sa spécialité, c'est le droit européen. Pour pouvoir continuer à exercer, il est obligé de rester européen.
95% de la décision est quand même professionnelle. Si tu es spécialiste en droit européen, il faut être avocat au barreau d'un État membre. Si tu n'es pas, tu n'as pas le droit de rendre du conseil confidentiel, tu n'as pas le droit d'audience dans le cours justice européenne. Je suis avocat, je suis adaptable, mais il faut que je cherche ailleurs.
La famille a donc beaucoup discuté et finalement, Peter ne partirait peut-être pas avec femme et enfant.
Selon les offres possibles, ça serait plutôt que je fais les allers-retours depuis le continent. Ma famille reste ici en Écosse et moi je travaille soit à Bruxelles, au Luxembourg ou ailleurs et je fais les allers-retours. Si moi je déménage pour le boulot, j'aimerais bien quand même essayer de le limiter. Si c'est lundi, jeudi, il y a quand même 3 jours ensemble. Mais oui. On ferait partie de tout ça, Skype Family.
Vivre sans son épouse et ses enfants n'est pas quelque chose que Peter avait envisagé. Il ne veut pas se poser en victime. C'est notre décision, dit-il, mais il faut penser au long terme. Et s'il quitte l'Écosse maintenant, alors qu'Elodie n'est que française, c'est elle qui aura du mal à revenir au Royaume-Uni.
Ça veut dire qu'elle sera avec aucun droit de dire que, attendez, vous devez me traiter quand même un peu privilégié parce que j'ai vécu plus que 5 ans. Non, c'est cassé. Mais c'est pas ça. En fait, il faut penser aux enfants en Écosse. Pourquoi j'ai dit en Écosse? Parce que en Écosse, on a les frais d'université gratuits. Il faut être résident en Écosse pour ça. Alors, si on déménage en France, et dans 3 ans, mon aînée va à l'université, elle devra payer pour les frais d'université.
La décision semble donc s'imposer d'elle-même pour la famille Sellar. Pour l'instant, en tout cas, ils font toutes les démarches administratives possibles pour assurer leur avenir européen. Et Elodie pense aussi à demander la nationalité britannique. À Londres, là où 60% des électeurs ont voté contre le Brexit, l'exil est une idée tentante pour beaucoup, une option sérieuse pour certains, comme Anthony et Brian. Contrairement à la famille Sellar, ils n'ont pas encore entamé les démarches de naturalisation. Ils ont commencé à régler le problème par un autre bout, explique Brian. Ils viennent d'acheter une maison au Portugal.
Mon compagnon est portugais de naissance et comme nous sommes dans un partenariat civil, je pourrais moi aussi obtenir le passeport. Nous allons garder la double nationalité pour avoir le meilleur des deux. Pour l'instant, je dois travailler au Royaume-Uni, mais je suis en train de me renseigner pour pouvoir baser mon entreprise au Portugal et vivre là-bas.
Brian est conseiller en gestion de projets et d'entreprises. Le couple vit déjà entre les deux pays depuis quelques mois, car quelque chose s'est cassé pour Brian.
Je trouve que le Royaume-Uni a changé depuis le vote sur le Brexit. Les gens se sont renfermés. Londres reste un cas unique grâce à son multiculturalisme, mais au-delà, dans les grandes comme les petites villes, les gens ont adopté une mentalité de plus en plus insulaire. Et sont de plus en plus xénophobes. J'ai l'impression que le Royaume-Uni ne sera plus le même après la sortie de l'UE. J'ai toujours cru au projet européen et je veux continuer à vivre et travailler dans l'Union européenne.
Brian ne fait pas partie de ceux qui ont voulu réduire en fumée leur passeport britannique en entendant les résultats du Brexit. Ce serait couper les ponts entre les pays et l'important pour tous ces Britanniques qui se sentent européens, c'est de pouvoir continuer à considérer le continent comme leur grande maison.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
Et le bar à whisky, ce n'est plus forcément au Royaume-Uni ou en Écosse, pourquoi pas. Et non, l'Alsace en produit un single malt qui bénéficie même d'une indication géographique protégée. Les premiers whisky alsaciens sont nés dans les années 2000. Aujourd'hui, cette eau de vie de malt remporte plus de succès que le kirsch ou encore l'alcool de Mirabel, digestif traditionnel qui existe pourtant depuis des décennies en Alsace. Une révolution, Corinne Fugler.
Ce whisky alsacien est élaboré à partir de brassins d'orge maltais issus des brasseries de la région. À Überach, au nord de Strasbourg, la distillerie Epp s'est lancée dans le whisky single malt en 2007, un été où les fruits manquaient. Elle en a produit 3 fûts cette année-là, elle en produit aujourd'hui plus de 600. Yannick Epp.
Il y a 13-14 ans en arrière, quand on a commencé, on était des bleus dans le whisky. Hein. On a tout appris sur le tas, on s'est renseigné à droite à gauche. Et au début, les consommateurs d'eau de vie n'étaient pas forcément des consommateurs de whisky. Il fallait éduquer tout le monde, il fallait trouver de nouveaux clients.
Et les brasseries alsaciennes sont devenues les partenaires naturels des distilleries. L'orge sert de base à la fois à la bière et au whisky. L'IG, l'indication géographique, impose aux producteurs de whisky un cahier des charges très contraignant.
Ça doit être uniquement du single malt, interdiction totale de blend, interdiction totale de pure malt. Le single malt impose que ce soit fait dans une seule brasserie, un seul distillateur, un seul éleveur et un seul embouteilleur. C'est le cas chez nous et pour l'ensemble de mes confrères alsaciens.
En France, l'Alsace et la Bretagne bénéficient de l'IG pour du whisky. L'indication géographique garantit un produit authentiquement alsacien et de qualité. Et des 5 eaux de vie d'Alsace, c'est le whisky qui marche le mieux. Les producteurs alsaciens comptent donc sur le single malt pour conquérir de nouveaux palais.
Une génération de consommateurs ne connaissait pas du tout les eaux de vie de fruits et c'est le whisky qui permet de faire redécouvrir ces produits qu'on ne faisait depuis longtemps.
Chaque année, les distillateurs alsaciens produisent 53 000 litres d'alcool pur, dont 23 600 litres de whisky, dotés de cette indication géographique. C'est l'équivalent de 70 000 bouteilles.
Ils sont moins connus que leurs grands frères le Vésuve. Et pourtant, ils sont identifiés comme parmi les volcans les plus dangereux d'Europe. Les champs Flégréens, c'est leur petit nom, situé à 10 km de Naples, sont en fait un ensemble d'une trentaine de volcans. Et ils ont récemment fait l'objet d'une étude alarmiste. Ils seraient prêts à entrer en éruption d'un moment à l'autre. Ce scénario inquiète peu les habitants qui vivent sur le flanc du volcan. Le reportage de Cécile Debarge à Pouzol, une ville installée au milieu du cratère.
Alors juste pour faire comprendre la consistance du sol où on se trouve, voilà.
Ce bruit sourd et glaçant, c'est celui de l'énorme pierre que Giuseppe Iocardo vient de jeter par terre, au cœur de la Solfatara. Ce site est l'une des principales caldeiras des champs phlégréens, c'est-à-dire une sorte de gros cratère de volcan à fond plat.
Le bruit se propage jusqu'à 10 mètres de profondeur sous nos pieds, où il rebondit sur la trachyte, une roche volcanique.
Impossible en revanche de savoir à quelle profondeur se trouve le magma du volcan, tant la communauté scientifique est divisée sur la question. L'unique certitude est que le volcan est actif, comme le prouve cette récente découverte.
Et là, voilà ce qu'on a sous nos pieds.
Une large brèche fond le sol, laissant s'échapper une sorte de boue grise épaisse composée essentiellement d'argile.
La dernière température relevée est d'environ 85 degrés. Il n'y a pas d'ébullition. Ces bouillons sont dus en fait à la pression des gaz qui remontent.
Ces gaz, eux, sont produits par le volcan et remontent vers la surface en provoquant des fumerolles ou encore des bouillonnements comme celui récemment découvert. Des phénomènes naturels d'autant plus surveillés à la Solfatara que le site se trouve au beau milieu de la ville de Pouzzoles et que le cratère est entouré par des immeubles HLM et des centaines d'habitations. Giuseppe Iocardo.
Sur une échelle de 1 à 4, Pouzzoles est au niveau de danger 2. Passer au niveau 3 impliquerait que tous les habitants pourraient quitter les lieux. Et dans ce cas, la difficulté, ce serait que l'État devrait leur garantir un relogement.
Au total, près d'un demi-million d'Italiens vivent au-dessus de ces anciens volcans, aujourd'hui couverts par 5 villes moyennes en périphérie de Naples. Une situation qui suscite de manière générale peu d'inquiétude auprès des habitants, comme l'explique Maria Laura Longo. Cette jeune sociologue est née et vit à Pouzzoles.
En réalité, nous, les habitants de Pouzzoles, on vit en permanence ce risque sous nos pieds. On sait que les différentes bouches de cette caldeira sont très actives, mais on l'affronte de manière assez détendue. On s'y est habitué. On préfère voir les ressources que cela nous procure, comme la géothermie, même si c'est encore peu exploité.
Un optimisme et une résilience récemment mises à rude épreuve par les publications de la communauté scientifique internationale. En début d'année, plusieurs journaux locaux, repris ensuite par une grande partie de la presse, ont créé un vent de panique en titrant sur les méga-volcans prêts à se réveiller et à tout détruire. Pourtant, l'étude scientifique pointait surtout le réchauffement du volcan depuis plusieurs décennies et plusieurs signes d'activité nouveaux, explique Maria Laura Longo.
À partir du moment où il y a des études scientifiques, et en ce moment il y en a vraiment beaucoup, tout est réinterprété ou tout au moins diffusé de manière très alarmiste par les médias grand public ou les réseaux sociaux.
Ces spéculations s'expliquent aussi par la méconnaissance relative de ces volcans que sont les champs phlégréens. À quelle profondeur se trouve le magma? En quelle quantité se trouve-t-il? Où remontera-t-il à la surface? Et surtout quand? Toutes ces questions restent aujourd'hui sans réponse et ont obligé les autorités locales à se préparer au pire. Cinzia Kraus a réalisé le plan d'évacuation de la ville pour la mairie de Pouzzoles. Si le risque passait au niveau 3 sur 4, contre 2 actuellement, tout devrait être évacué en 3 jours.
On aura 72 heures. Les 12 premières heures seront destinées à signaler les voies d'entrée et de sortie pour évacuer et pour positionner sur le territoire les forces d'intervention. Pour les 48 heures suivantes, il faudra évacuer. Et enfin, les 12 dernières heures, on mettra les lieux en sécurité pour permettre aux forces d'intervention de repartir.
Un scénario similaire à celui prévu par les communes autour du Vésuve, à la différence que les informations scientifiques sont bien plus nombreuses et précises pour le Vésuve, notamment car sa dernière grande éruption remonte à la période de la Deuxième Guerre mondiale.
On pense qu'on aurait environ 14 jours pour se préparer. En revanche, c'est différent pour une caldeira où les temps sont bien plus courts. On n'a aucun point de comparaison historique. Et à travers le monde, on a beaucoup d'exemples de caldeiras qui explosent le soir après s'être réveillées le matin même.
La dernière éruption des champs phlégréens, elle, remonte à 1538.
Grandes avenues austères, bouchons désespérants, Moscou conserve une image de ville hostile. Pourtant, la capitale russe se métamorphose. Ces dernières années, Moscou est un chantier permanent. La municipalité a investi des sommes colossales pour rendre cette mégalopole de 12 millions d'habitants plus vivable. Inauguré en plein cœur de la capitale, le parc Zariadier est le symbole de cette transformation, Étienne Bouche.
Pour prendre la mesure du changement, il faut se souvenir que jusqu'en 2006, il y avait à cet emplacement l'hôtel Rassia, un immense bloc de béton soviétique qui abritait plus de 3000 chambres. Sa démolition a suscité les convoitises. Le terrain fait plus de 10 hectares, il se trouve juste à côté de la place Rouge, au bord de la Moscova. Les investisseurs sont déchaînés. Les moscovites se sont longtemps demandé ce qu'allait devenir ce terrain vague en pleine ville. La municipalité a finalement tranché et décidé d'y aménager un parc. Comme prévu, l'inauguration a eu lieu le jour de la fête de la ville, même si manifestement, les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Alors que les ouvriers et les fleuristes poursuivent leur travail, les nombreux visiteurs découvrent des panoramas inédits de la capitale. Ce nouvel espace vert a coûté l'équivalent de 200 millions d'euros. Il est composé de plusieurs zones botaniques, chacune représentant un paysage russe avec sa flore spécifique. Le visiteur peut traverser une toundra, une steppe et même visiter une grotte de glace. La direction du parc explique qu'un système de contrôle climatique assuré par des lanternes infrarouges permettra aux plantes habituées au milieu chaud de résister à l'hiver moscovite. Depuis la passerelle en forme de V, on peut admirer les gratte-ciels staliniens, les coupoles dorées du Kremlin, la célèbre basilique de la Place Rouge. À sa pointe, les appareils photos sont fébriles. Pour la municipalité, le parc Zariadier est un nouveau symbole de la modernisation de la ville. On y trouve restaurants, salles de conférence et musées souterrains. Sous une colline recouverte par un dôme, une philharmonie est actuellement en construction.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors, vous avez été séduit par l'accordéon et les arrangements avant-gardistes d'une formation venue d'Anvers.
Le groupe belge DAU fête cette année les 25 ans de sa formation à Anvers, en 1992 donc. DAAU, c'est pour Die Anarchistische Abend Unterhaltung, que l'on pourrait traduire par le divertissement anarchiste nocturne. C'est une référence au roman de Hermann Hesse, Le Loup des Steppes. Un nom pas comme les autres, pour un groupe pas comme les autres, qui mobilise des instruments comme l'accordéon, la clarinette, le violon, le violoncelle ou le piano autour d'une écriture qui s'épanouit aux frontières du jazz, de l'avant-garde rock, des musiques traditionnelles et du classique, un peu à l'image de ce qu'a pu faire Yann Tiersen en France. Et pour fêter son anniversaire, le groupe publie un album pour lequel il a sélectionné 20 morceaux dans sa discographie, réarrangés et réenregistrés pour l'occasion, des relectures qui impressionnent par leur sophistication et font à nouveau briller des pièces essentiellement instrumentales, à l'exception notamment de cette Rain Song.
Les notes de l'accordéon Rain Song des Belges DAU. À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Ne zappez pas, vous êtes sur la Radio Mondiale. Tout de suite, le journal.
Whenever the rain is falling, rain is falling.